Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Vague mais excitant, ce sont les trois mots que son chef a posés sur les quelques pages présentées par le Britannique Tim Berners-Lee il y a 30 ans et intitulées « Gestion de l'information, une proposition ». Quelques pages qui sont à la base de ce qui est aujourd'hui le web. Toute la semaine, Tim Berners-Lee et ses collègues sont réunis à Genève, là où le système est né, pour fêter ça, mais aussi pour se poser des questions. Leur utopie décentralisée, égalitariste et ouverte a aussi permis la création de mastodontes numériques, le business des données personnelles, les fausses informations, plus, et même peut-être pire encore, le web a-t-il rendu nos vies meilleures ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Christophe Deshaies, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert de l'analyse des transformations sociétales et économiques liées au numérique, auteur de « La transformation numérique et les patrons ». C'est à paraître en avril 2019 aux Presses des Mines. Et Thierry Le Fur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en comportement numérique et addictif. Alors il n'y a pas de doute sur le fait que le web a transformé nos vies, qu'on y ait accès ou pas d'ailleurs. Mais comme je le disais, le projet utopique de départ a été utilisé d'une manière bien différente de ce qu'imaginaient ses concepteurs. Des vies transformées donc. Pour le meilleur ou pour le pire, Christophe Deshaies ?
Les deux, absolument, on peut dire à peu près tout et son contraire, il n'y a absolument aucun doute. J'ai autant d'exemples que vous voulez dans les deux cas. Après, la seule question, c'est est-ce qu'on le vit personnellement bien ou pas ? Moi, personnellement, je le vis bien.
Thierry Le Fur, qu'est-ce que vous en diriez ?
La même chose, en fait, c'est les bons usages et les équilibres qui feront qu'on en tirera des profits, des utilités, du plaisir, des liens sociaux, ou à l'inverse, le lien social, si on a mis n'importe quoi sur le web, va nous venir dans la figure, et ça peut devenir dangereux. Et de la même manière, si on y passe trop de temps, on va s'épuiser, on va se déconcentrer, et là, ça devient moins amusant.
Oui, parce que ça, il faut que nos auditeurs en aient bien conscience, le web n'oublie rien, jamais. Donc on va aller directement dans les exemples, si vous voulez bien, Christophe Deshaies. Qu'est-ce qui s'est amélioré ? La circulation de l'information, la communication instantanée avec l'autre bout du monde, c'est...
Alors, Tim Berners-Lee, au départ, a voulu régler un problème d'accès à la connaissance. Bon. Donc, effectivement, ça a un accès à la connaissance absolument incroyable. Ça, c'est le côté évident pour tout le monde. Un des effets éventuellement pervers, c'est qu'on sait fabriquer une bombe sur Internet facilement, etc. C'était pas forcément prévu.
C'est-à-dire voilà, qu'on peut faire connaître de mauvais usages de façon très facile.
L'accès à la connaissance, on a oublié que la connaissance, ça pouvait avoir plein d'effets positifs et négatifs. Donc on a juste démultiplié, potentialisé tout ce qu'on peut trouver autour de la connaissance, le bon et le mauvais.
Voilà. Qu'est-ce que vous en diriez, Thierry Le Fur ? Qu'est-ce qui s'est amélioré pour vous depuis que Internet existe, depuis 30 ans pour ceux qui sont spécialistes, disons 20 pour le commun des mortels?
Alors ça a été un outil particulièrement utile de facilité, etc. L'exemple type, c'est le tableur où vous rentrez des chiffres, c'est automatique. Le traitement de texte, vous écrivez, vous pouvez faire du copier-coller. Et puis le troisième point, c'est les recherches d'informations avec des bases comme Wikipédia où subitement vous avez accès assez facilement à l'information que vous pouvez récupérer. Donc ça c'est génial. Après, qu'en fait-on ? Et typiquement, si on prend l'exemple de Wikipédia, c'est bien fait parce que derrière, ils amènent tout le temps à vouloir sourcer les informations. Si on prend juste l'information brute sans chercher à savoir ce qu'il y a derrière, là, ça devient un problème.
Des secteurs entiers ont été transformés. Alors, le commerce en ligne, la distribution, les voyages, la musique, évidemment, le cinéma, l'hôtellerie. Est-ce que vous diriez que ces secteurs fonctionnent mieux qu'avant, Christophe Deshaies ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un secteur qui n'est pas bouleversé. Il y en a qui sont bouleversés à 90% et d'autres peut-être qu'à 50%. Donc, oui. Après, est-ce qu'ils fonctionnent mieux? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une orientation aujourd'hui vers le client. Le client est plus directement, il est plus zappeur, etc. Donc, il faut absolument conserver le client. Les barrières, ce qui est évident, c'est que les barrières ont baissé, les barrières de rétention des clients. Et donc, ça oblige les entreprises à faire très, très, très attention. Alors, elles le font plus ou moins bien. Mais en l'occurrence, ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé. Avant, on avait un discours sur le client. Aujourd'hui, il y a intérêt à ce que les actes suivent, parce que sinon, en une fraction de seconde, en un clic, on est ailleurs.
Oui. Thierry Le Fur, voiture. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier qui vous semble avoir changé vraiment diamétralement, qui a été peut-être un secteur vigie, qui a été en avance sur tous les autres?
Typiquement, si on prend par exemple l'automobile, ça leur a permis de faire des modèles beaucoup plus rapides, de créer des voitures beaucoup plus rapidement, de robotiser de manière vraiment spectaculaire. Alors quand on est dans vraiment la production comme c'est le cas là, effectivement c'est un atout énorme. En revanche, quand on rentre dans le service, ça peut être à double tranchant. Si on prend le monde de l'hospitalier, cette semaine il y a quelqu'un qui donc s'est retrouvé avec une caméra au milieu d'un médecin, on sent le décès très futur, dans les jours qui venaient, de quelqu'un. C'est pas la même chose d'être dans un contexte où c'est un être humain qui vous parle et un robot.
Ouais. Est-ce que vous en parliez, Christophe Dehaye, du consommateur, est-ce que la vie des utilisateurs slash, comme on dit sur Internet, consommateur, parce qu'il y a les deux aspects, est-ce qu'elle est plus facile et plus simple, ou est-ce que il y a tellement d'informations que finalement on sait plus trop où on en est?
Alors, c'est un vrai sujet. C'est le sujet des plateformes, là, quasiment que vous évoquez. Les champions du net, vraiment, sont obsédés par le temps client, par la simplicité, pour essayer de faire en sorte que vous ne pensiez plus qu'à eux. Et l'exemple type, c'est des Uber et compagnie. Quand vous voulez vous déplacer, si vous êtes habitué à Uber, vous avez une application qui est Uber et vous n'en avez pas cinq sur votre smartphone. Et ça, c'est encore plus vrai sur le web. Encore plus classique, quoi. Donc il y a un phénomène qui est le fameux le gagnant ramasse la mise. On a effectivement des concentrations qui sont absolument considérables. Et donc si vous vous laissez faire à cela, la vie est plus simple. Mais vous vous laissez enfermer. Si vous voulez exprimer votre choix, alors là, vous tombez dans l'enfer, la jungle. Et pour faire son choix, c'est très très compliqué. Qui va au-delà de la première page des résultats de Google?
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Thierry Le Fur? Est-ce qu'on est complètement... Est-ce qu'on remet sa vie à son smartphone aujourd'hui?
Certains disent ma vie est dans mon smartphone. Donc ça a été dit tellement souvent que finalement, il y a quelque chose qui relève de cela. Pour prolonger ce qui vient d'être dit, il s'avère que face à un écran, on commence à découvrir qu'il y a un problème qui apparaît, c'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes par exemple avec Uber, mais vous avez un certain nombre de besoins. Et en fonction des mises à jour, en fonction des changements de version, etc., etc., vous vous y retrouvez pas vraiment au niveau de l'écran. Mmh. Et ça, c'est un vrai problème pour part considérable des personnes.
Mmh. Est-ce que, et je reviens sur le sujet économique peut-être des plateformes, Christophe Dehaye, est-ce que la suppression des intermédiaires a détruit des emplois? Parce que ça, c'est quand même une partie importante, le fait d'avoir un travail de la qualité de vie. Je prends l'exemple des agents de voyage, on en voit quand même beaucoup moins qu'avant.
Alors, si je peux vous reprendre, c'est une légende tenace. Internet n'a pas supprimé les intermédiaires. Et c'est un rêve absolu. Ça a remplacé les intermédiaires. C'est-à-dire que des intermédiaires humains ont été remplacés par des machines. Ces machines sont programmées par des gens. Les revenus qu'elles se génèrent et les bénéfices reviennent bien à quelqu'un. Je peux vous assurer qu'on a juste remplacé un intermédiaire humain par un intermédiaire machine et avec des intérêts qui sont assez facilement localisables aujourd'hui aux États-Unis. Bon, c'est le premier bémol. Effectivement, c'est quelque chose qui avait été annoncé il y a déjà maintenant plus de 30 ans par des chercheurs. L'ordinateur va pouvoir faire des transactions bien mieux que tout un tas d'intermédiaires, y compris les aspects les plus compliqués, et notamment c'était les agents de voyage. Donc effectivement, tout ceci a disparu. En grande partie parce que ça s'automatise. Mais il reste aujourd'hui quelque chose qui est absolument évident et que tous les patrons que j'ai interrogés m'ont raconté. Ce qui est clair, c'est que les gens sont ambigus dans leurs besoins. Ils veulent à la fois du moins cher et plus de services. Et donc, il est clair que le digital est là pour faire les deux en même temps, à la fois automatiser et rendre des choses moins chères et réallouer cet argent en partie ou en grande partie, ça sera à voir, sur plus de services. Et vous avez aujourd'hui dans les supermarchés quelque chose qui est complètement à remarquer, c'est que c'est la proximité qui compte. On réinvestit dans des bouchers, dans des poissonniers, etc. Et c'est souvent des gens qui sont les mieux payés du supermarché. Enfin, c'est quelque chose qui était complètement impensable il y a quelques années.
Thierry Le Fur, est-ce que les gens ont conscience de des conséquences de leurs achats, de leurs actes sur sur Internet, sur leur leur smartphone. Est-ce que eh bien ils essayent de via leur smartphone ou via des sites Internet de privilégier par exemple des filières locales. Est-ce que c'est quelque chose dont on se détache ou plutôt dont on prend conscience avec les nouveaux usages?
Alors il y a deux aspects, c'est-à-dire que sociétalement on sent que le local, le durable, etc. c'est quelque chose qui est une valeur qui est en train de remonter. En ce qui concerne les achats qu'on va faire, on rentre beaucoup plus maintenant dans la comparaison qui est possible de faire, dans lequel peut rentrer ou pas ce paramètre. Si c'est que le prix, c'est une chose. Alors maintenant on peut y passer beaucoup de temps et on a une nouvelle génération qui arrive et qui se dit mais je passe combien de temps par exemple pour organiser mon voyage? Si j'y passe 10 heures, ça devient un peu fou. Il commence à y avoir une prise de recul sur l'usage des comparateurs, des outils, etc.
La régulation pour des raisons quelles qu'elles soient, étatique, commerciale, morale ou philosophique, est-ce que une régulation accrue menace le web pour vous, Christophe Déhay?
Alors, il y a une propriétarisation qui ne la menace plus, elle est déjà quasiment là, c'est un premier point. Et par rapport à ça, il y a des positions dominantes qui sont très problématiques et qui effectivement appellent probablement une régulation. Et la grande difficulté, c'est de savoir si le régulateur va être suffisamment malin et rapide, aussi malin et rapide que les gens d'en face. On peut avoir des doutes, parce qu'il y avait une partie des dernières années, le régulateur, le but du jeu, c'était de faire des agences quasi privées de régulation pour se débarrasser d'un problème. Or, tout est transversal aujourd'hui. J'ai parlé de l'abaissement des frontières. Vous ne pouvez plus régler un problème uniquement du régulation du chauffeur de taxi. Enfin, voilà, vous avez bien vu ce qui s'est passé avec les chauffeurs de taxi.
Absolument.
Ils avaient une régulation, tout le monde s'en est fichu, et puis à l'arrivée, ben voilà, le monde a changé malgré le régulateur. Donc c'est là où il y a un vrai sujet, c'est est-ce que le régulateur va être assez intelligent et vif pour suivre le mouvement.
Est-ce que Thierry Le Fur, c'est possible pour que ce soit un État ou autre chose d'ailleurs, une autorité, de suivre un mouvement sur un réseau qui par nature, par définition, est décentralisé et sans doute plus agile?
Alors c'est techniquement c'est possible, par exemple, dans certains pays où ils coupent carrément. Maintenant, dès qu'on est dans quelque chose de plus démocratique, ça va tellement vite. Si on est à un endroit et qu'on a envie de changer, on change. Quant à la régulation, ce que vous avez dit au début de l'émission, Internet n'oublie rien. Donc, vous prenez, si vous dites, on va créer un droit à l'oubli, dans la réalité du fait, cette régulation n'existe pas vraiment.
Ça m'amène à ma question suivante, Christophe Déhay. Ce qu'on appelait la neutralité du net, est-ce que ça existe toujours? D'ailleurs, vous allez nous définir ce que c'est que la neutralité du net, si vous voulez.
Alors, la neutralité du net, c'est ce qui faisait que on était garanti d'avoir une égalité de traitement dans le transport des paquets. Hein. C'est-à-dire que là, il y a effectivement un vrai problème, c'est que vous avez des gens qui tirent sur la corde beaucoup. Hein. Quand on fait de plus en plus à regarder de YouTube, vous avez beaucoup de paquets à envoyer. C'est des gens qui payent pas l'infrastructure, en gros. Et donc, évidemment, les gens qui sont spécialistes d'infrastructure se disent, à juste titre, faudrait ou les faire payer, ou éventuellement que moi, qui assume le coût des infrastructures, je puisse donner des priorités. Voilà. Donc, c'est le grand débat. C'est un débat c'est un serpent de mer, c'est un débat qui est assez infini de mon point de vue.
Les risques aujourd'hui qui sont liés à Internet, Thierry Le Fur, et c'est un peu votre spécialité, c'est les comportements addictifs. Est-ce qu'ils sont encouragés d'ailleurs par les réseaux sociaux? On entend souvent dire ça, que les réseaux sociaux veulent vous garder le plus longtemps possible pour vous vendre de la pub, tout simplement. Et donc ils ont intérêt à ce que vous ayez un comportement addictif.
Alors en fait, ils vont nous pousser vers l'utilisation en permanence, c'est-à-dire une conduite chronique. Si vous vous ennuyez, si vous n'êtes pas très bien dans votre peau, là du coup vous allez conjuguer une permanence d'un usage avec une petite faille psychologique qui va vous entraîner au total à quelque chose qui relèvera effectivement d'une addiction. D'autant plus que si vous avez 250 messages par jour, par exemple, votre cerveau va être en permanence ramené à ce genre de choses.
Les fausses informations propagées par des intérêts privés ou publics, des États, ça aussi c'est un danger important, Christophe Déhay.
Alors c'est un danger important, mais qui était déjà annoncé par un certain nombre de chercheurs il y a déjà plus de 10 ans, si vous voulez. Quand on dit communautarisme, parce que enfin, en fait c'est ça, hein, le web communautaire, etc., c'est du communautarisme. C'est pas parce qu'il est virtuel qu'il est moins dangereux. Les gens veulent écouter ce qu'ils ont envie d'entendre. À partir de là, ceux qui écoutent Fox News, de toute façon, si Fox News se met à leur dire autre chose, ils couperont Fox News. Voilà, c'est aussi simple que ça, et donc c'est un problème.
Merci Christophe Déhay, merci à vous également Thierry Le Fur d'avoir participé à cette émission qui est déjà terminée. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Déborah Lepage et Arnaud Lassewa à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr, notre site web, et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique magazine. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Pour l'instant, on va à Barcelone pour Lyon-Barça. Ça commence dans 5 minutes. Bonjour chez vous.